Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Bonsoir. Nous voici de nouveau ensemble dans nos habituelles lectures pour écouter en ce début de semaine la suite des aventures de Sherlock Holmes dans le roman de Conan Doyle, Le chien de Baskerville. En rentrant à Baskerville Hall, je fus rattrapé par le docteur Mortimer, dont la charrette anglaise revenait de la ferme de Foulmire. Il nous avait constamment témoigné beaucoup d'égards. Il laissait à peine s'écouler un jour sans se rendre au manoir pour prendre de nos nouvelles. Il insista pour me faire monter à côté de lui et m'avancer sur la route du retour. Je le trouvais tout éploré par la disparition de ce petit épagnol qui s'était aventuré dans la lande et n'était jamais revenu. J'essayais de le consoler de mon mieux, mais je pensais au poney du bourbier de Grimpen et je n'espérais guère qu'il revît un jour son petit chien. « À propos, Mortimer, lui dis-je, je suppose que vous connaissez tout le monde par ici. »«
Oui, je crois. »«
Pouvez-vous alors me donner le nom d'une femme dont les initiales sont L.L. » Il réfléchit quelques instants. « Non, me répondit-il enfin, il y a quelques bohémiens et des ouvriers agricoles dont je ne sais à peu près rien, mais parmi les fermiers ou les bourgeois, je ne vois personne qui possède ces initiales. Attendez un peu, toutefois. Il y a, oui, Laura Lyons. Ses initiales sont bien LL. Mais elle habite Combe Tracy.
Qui est-ce ?
La fille de Frankland.
Comment ?
Du vieux Frankland, le Maboule, oui. Elle a épousé un artiste du nom de Lyons, qui était venu peindre sur la lande. Il se révéla un triste sire et il l'abandonna. La faute à ce que l'on m'a dit ne lui incombe peut-être pas exclusivement. Son père refusa de s'occuper d'elle parce qu'elle s'était mariée sans son contentement et peut-être pour quelques raisons supplémentaires. Ainsi, entre deux pêcheurs, le vieux et le jeune, la fille n'a guère été heureuse.
Et comment vit-elle ?
« Oh, je crois que le vieux Frankland lui verse une rente, mais peu élevée, car ses propres affaires vont assez mal. Quoi qu'elle eût mérité, on ne pouvait pas la laisser aller vers des solutions de désespoir. Oh, son histoire s'est répandue et plusieurs personnes des environs ont fait quelque chose pour l'aider à gagner honnêtement sa vie. Stapleton s'en est mêlé, Sir Charles aussi, moi également, assez pour en faire une dactylo. » Il voulait connaître le motif de ma curiosité, mais je m'ingéniais pour satisfaire la sienne sans trop lui en dire. Demain, j'irai à Combe Tracy, et si je peux voir Madame Laura Lyons, de réputation douteuse, un grand pas sera fait pour l'élucidation de l'une de nos énigmes. Je suis certainement en train d'acquérir la prudence du serpent, car lorsque Mortimer me pressa un peu trop, je lui demandai à quelle catégorie appartenait le crâne de Frankland. Et la craniologie occupa la fin de notre promenade en voiture. Ce n'est pas pour rien que j'ai vécu 5 années avec Sherlock Holmes. J'ai encore un autre incident à rapporter pour en terminer avec ce jour de tempête et de cafard. Il a trait à une conversation que je viens d'avoir avec Barrymore, et qui m'a procuré un atout que je jouerai à mon heure. Mortimer était resté à dîner. Après le repas, il fit un écarté avec le baronnet. Le maître d'hôtel me servit le café dans la bibliothèque et je saisis l'opportunité de l'interroger. « Eh bien, lui dis-je, en exorde, votre célèbre parent est-il parti ou se trouve-t-il encore tapi dans un coin de la lande ?»«
Je ne sais pas, monsieur. Je prie le ciel qu'il soit parti, car il ne nous a apporté que des ennuis. Je n'ai pas eu de ses nouvelles depuis la dernière fois où je lui ai déposé des vivres, ce qui remonte à 3 jours. »«
Et l'avez-vous vu cette nuit-là ? » ?»«
Non, monsieur. » Mais quand je suis revenu le lendemain, les vivres avaient disparu.
Donc, il était encore là.
Oh, sans doute, monsieur, à moins que ce ne soit l'autre qui les ait pris.
Ma tasse de café s'arrêta à mi-chemin de mes lèvres. Je dévisageais Barrymore.
Vous savez qu'il y a un autre homme ?
Oui, monsieur, il y a un autre homme sur la lande.
L'avez-vous vu ?
Ah non, monsieur.
« Alors, comment connaissez-vous sa présence ?»«
Oh, Selden m'a parlé de lui, monsieur. Il y a une semaine environ, cet homme se cache, lui aussi. »«
Mais d'après ce que j'ai compris, ce n'est pas un forçat. »«
Oh, je n'aime pas cela, docteur Watson. Oui, oui, je vous le dis tout net, je n'aime pas cela. »
Il parlait avec une passion soudaine.
« Allons, écoutez-moi, Barrymore. Dans cette affaire, je n'ai en vue que les intérêts de votre maître. » Si je suis venu ici, c'est uniquement pour l'aider. Dites-moi en toute franchise ce que vous n'aimez pas. »
Barrymore hésita un instant comme s'il regrettait de s'être laissé aller ou comme s'il trouvait difficile de traduire par des mots son sentiment profond.
« Tous ces manèges !» s'écria-t-il enfin en brandissant sa main vers la fenêtre, tout éclaboussé de pluie. « Il y a quelque part un jeu déloyal qui se joue, et beaucoup de scélératesse dans l'air. J'en jurerai, croyez-moi, monsieur, je serai bien content de voir Sir Henry repartir pour Londres. »
« Mais qu'est-ce qui vous inquiète ?»«
Oh, songez à la mort de Sir Charles. Pas très naturel, en dépit des conclusions de l'enquête. Songez au bruit qu'on entend sur la lande à la nuit. Je ne connais pas un homme qui la traverserait une fois le soleil couché, même s'il était payé pour le faire. Songez à cet étranger qui se cache et qui guette. Que guette-t-il ? Que signifie tout cela ?
Oh, certainement pas grand-chose de bon pour n'importe quel Baskerville.
Voilà pourquoi je serai rudement content le jour où les nouveaux serviteurs de Sir Henry s'installeront au manoir.
« Mais à propos de cet étranger, repris-je, ne pouvez-vous rien me préciser ? Qu'a dit Selden ? A-t-il découvert l'endroit où il se cache et ce qu'il manigance ?
Oh, il l'a vu une fois ou deux. Mais il n'est pas bavard, vous savez. D'abord, il a cru que c'était un policier. Mais il s'est bien rendu compte qu'il opérait pour son compte. Une sorte de bourgeois. Mais il n'a pas pu deviner ce qu'il faisait. »
Et où vous a-t-il dit qu'il vivait ?
Oh, parmi les vieilles maisons sur le flanc de la colline, les vieilles cabanes de pierre autrefois habitées.
Et comment se nourrit-il ?
Oh, Selden a découvert qu'un jeune garçon est à son service et lui apporte tout ce qu'il a besoin.
Très bien, Barrymore, nous reparlerons de tout cela une autre fois. Quand le maître d'hôtel m'eut quitté, je me levai et me dirigeai vers la fenêtre noire. À travers la vitre brouillée, je contemplais les nuages qui déferlaient, la silhouette oscillante des arbres secoués par le vent. Vu de l'intérieur d'une maison, la nuit était sinistre. Que devait-elle être sur la lande ? Quelle dose de haine ne fallait-il pas pour amener un homme à se tapir dans un lieu pareil ? Et quels étaient les desseins ténébreux qui l'exposaient à de si dures épreuves. L'homme sur le pic. L'extrait de mon agenda personnel qui compose le chapitre précédent a mené mon récit jusqu'au 18 octobre, date à laquelle les événements commencèrent à se précipiter vers leur terrible conclusion. Ce sont des épisodes à jamais gravés dans ma mémoire. Et je peux les raconter sans faire appel aux notes que j'ai prises à l'époque. Je pars donc du lendemain du jour où j'ai recueilli 2 éléments d'importance. Le premier
étant que Madame Laura Lyons de Combe Tracy avait écrit à Sir Charles Baskerville et lui avait donné rendez-vous à l'heure et au lieu même où il avait trouvé la mort. Le deuxième était que l'inconnu du pic se cachait parmi les cabanes de pierre de la colline. Je n'eus pas la possibilité de répéter au baronnet ce que j'avais appris sur Madame Lyons, car le docteur Mortimer prolongea sa partie de cartes jusqu'à une heure avancée. Au petit déjeuner, toutefois, je l'informai de ma découverte et je lui demandai s'il désirait m'accompagner jusqu'à Combe Tracy. Il me répondit d'abord par l'affirmatif, puis il réfléchit que si j'y allais seul, les résultats seraient peut-être meilleurs. Plus notre visite revêtirait un caractère officiel, moins nous obtiendrons sans doute de renseignements. Quand j'arrivai à Combe Tracy, je dis à Perkins de mettre les chevaux à l'écurie et je m'inquiétai de savoir où logeait Madame Laura Lyons. Sa maison était centrale et bien située. Un domestique m'introduisit sans cérémonie. Et quand j'entrai dans le petit salon, une dame, qui était assise devant une machine à écrire, se leva d'un bond avec un agréable sourire de bienvenue. Le sourire s'évanouit pourtant quand elle vit un inconnu. Elle se rassit et me pria de lui expliquer l'objet de ma visite. La première impression provoquée par Madame Lyons était celle d'une grande beauté. Ses yeux et ses cheveux étaient de la même couleur châtaine, ses joues, bien que marquetées de taches de rousseur, avaient un exquis éclat de brune. Oui, d'abord, on l'admirait. Mais un examen plus approfondi laissait place à la critique. Il y avait sur son visage quelque chose qui ne cadrait pas avec sa beauté parfaite. Une sorte de vulgarité dans l'expression, une certaine dureté du regard, un relâchement de la bouche. Mais ces détails, bien sûr, ne s'imposaient pas tout de suite à l'esprit. Sur le moment, je fus simplement conscient d'une très jolie femme qui m'interrogeait sur le motif de ma visite. « J'ai le plaisir, dis-je, de bien connaître votre père. » C'était un exorde assez maladroit, et elle me le fit sentir. « Oh, tout est rompu entre mon père et moi. Je ne lui dois rien, et ses amis ne sont pas les miens. Si je n'avais pas rencontré des cœurs généreux, comme feu Sir Charles Baskerville, par exemple, j'aurais pu mourir de faim, sans que mon père s'en fût soucié. » Et justement, c'est à propos de Sir Charles Baskerville que je suis venu vous voir. Les taches de rousseur ressortirent sur les joues. Que puis-je dire le concernant ? Me demanda-t-elle en tapotant nerveusement les touches de sa machine à écrire. Vous le connaissiez, n'est-ce pas ? Oh, je vous ai déjà dit que je lui dois beaucoup. Si je suis à même de me débrouiller seul, c'est surtout grâce à l'intérêt qu'il porta à mon malheur. Correspondiez-vous avec lui ? Elle me jeta un regard méchant. « Pourquoi toutes ces questions » interrogea-t-elle d'un ton âpre. « Pour éviter un scandale public. Il vaut mieux que je vous les pose ici plutôt que de voir l'affaire se développer hors de notre contrôle. »
« My sweet Lady Jane, when I see you again, your servant am I, and will humbly remain. Just heed this plea, my love, on bended knees, my love. I pledge myself to Lady Jane. My dear Lady Anne, I've done what I can. I must take my leave, for promised I am. This play is run, my love. Your time has come, my love. I pledge my troth to Lady Jane.
Denis Flageol.
Retour au chien des Baskerville après la pause musicale. La dame se tut. Elle était très pâle. Finalement, elle releva la tête dans un geste de témérité et de défi. « Bien, je répondrai, quelles que soient vos questions. » Correspondiez-vous avec Sir Charles ? Je lui ai écrit une fois ou deux pour le remercier de sa délicatesse et de sa générosité. Et vous rappelez-vous les dates de ses lettres ? Non. L'avez-vous rencontré ? Oui. Une fois ou deux, quand il venait à Combe Tracy. Mais si vous l'avez vu et si vous lui avez écrit si rarement, comment en savait-il assez sur vos affaires pour vous aider ? Oh, ils étaient plusieurs à connaître ma triste situation. L'un était M. Stapleton, voisin et ami intime de Sir Charles. Il a très bon cœur. C'est par son intermédiaire que Sir Charles a été mis au courant. Et avez-vous jamais écrit à Sir Charles une lettre lui demandant un rendez-vous ? Madame Lyons rougit de colère. En vérité, monsieur, cette question est plutôt extraordinaire. Je regrette, madame, mais je dois vous la poser. Alors je réponds non, certainement non. Même pas le jour précisément où mourut Sir Charles ? Le rouge disparut de ses joues qu'envahit une pâleur mortelle. Ses lèvres sèches ne purent articuler le nom que je lus plus que je ne l'entendis. Sûrement votre mémoire a une défaillance, repris-je. Je pourrais citer un passage de votre lettre. Je vous en prie, si vous êtes un gentleman, brûlez cette lettre et soyez à 10 heures devant la porte. Je crus qu'elle s'était évanouie, mais au prix d'un effort immense, elle se redressa. Sir Charles, n'était-il donc pas un gentleman ? Haleta-t-elle. Oh, vous êtes injuste à l'égard de Sir Charles. Il a bel et bien brûlé la lettre. Mais il arrive qu'une lettre demeure lisible, même après avoir été brûlée. Vous reconnaissez maintenant que vous l'avez écrite ? Oui, je l'ai écrite, s'écria-t-elle. Je l'ai écrite parfaitement. Pourquoi le nierais-je ? Je n'ai pas à en rougir. Je voulais qu'il m'aide. Je croyais que si j'avais un rendez-vous avec lui, je pourrais obtenir l'aide dont j'avais besoin. Mais pourquoi un rendez-vous à une heure pareille ? Mais parce que je venais d'apprendre qu'il partait pour Londres le lendemain et qu'il serait peut-être absent plusieurs mois. Voilà pourquoi je ne pouvais pas me rendre plus tôt au manoir. Mais pourquoi un rendez-vous dans le jardin et pas dans la maison ? Mais croyez-vous qu'une femme puisse se rendre seule à une heure tardive dans la maison d'un célibataire ? Eh bien, que s'est-il passé ?
quand vous êtes arrivé près de la porte. Oh, je n'y suis pas allé.
Madame Lyons,
non, je vous le jure sur tout ce qu'il y a de plus sacré, je n'y suis pas allé. Quelque chose m'a empêché d'y aller.
Quoi donc ?
C'est une affaire privée. Je ne peux pas vous en dire plus.
Vous reconnaissez donc que vous aviez un rendez-vous avec Sir Charles à l'heure et à l'endroit où il est mort, mais vous niez être allé à ce rendez-vous.
C'est la vérité.
À nouveau, je l'interrogeai et multipliai les questions, mais elle s'en tint à ce qu'elle m'avait juré.
Madame Lyons, lui dis-je en me levant, vous prenez une lourde responsabilité et vous vous mettez dans une situation très fausse en ne disant pas clairement tout ce que vous savez.
Si je dois recourir à l'assistance de la police, vous mesurerez l'étendue de votre erreur. Si vous êtes innocente, pourquoi avez-vous commencé par me déclarer que vous n'aviez pas écrit à Sir Charles ce jour-là?
Parce que je craignais qu'on en tirât une conclusion erronée et que je fusse mêlé à un scandale.
Et pourquoi insistiez-vous tant pour que Sir Charles brûlât votre lettre?
Oh, si vous aviez lu la lettre, vous ne me poseriez pas cette question.
Mais je n'ai pas dit que j'avais lu toute la lettre. Vous m'en avez cité un passage.
J'ai cité le post-scriptum.
Comme je vous l'ai dit, la lettre avait été brûlée et tout n'était pas lisible. Je vous redemande encore une fois pour quelle raison vous insistiez pour que Sir Charles brûlât cette lettre qu'il reçut le jour de sa mort.
Bon, il s'agissait d'une affaire très personnelle.
Alors comprenez que vous devriez songer à éviter une enquête publique.
Bien, je vous le dirai.
Vous avez appris mon malheureux mariage. Vous savez donc que j'ai de multiples raisons de le regretter.
Oui.
Ma vie n'a été qu'une incessante persécution de la part d'un mari que je déteste. Il a la loi pour lui. Jour après jour, je me heurte à cette éventualité. Il peut me forcer à vivre avec lui. Lorsque j'ai écrit à Sir Charles, j'avais appris que je pourrais recouvrer mon indépendance si j'avais de l'argent pour supporter certains frais.
Cela signifiait pour moi certaines choses, tranquillité d'esprit, bonheur, dignité, tout.
Je connaissais la générosité de Sir Charles et j'ai pensé que s'il entendait mon histoire de ma propre bouche, il m'aiderait.
Alors comment se fait-il que vous ne soyez pas allé au rendez-vous que vous aviez sollicité ?
Ben parce qu'entre-temps, j'avais reçu de l'aide d'une autre source.
Et pourquoi n'avez-vous pas réécrit à Sir Charles pour vous excuser ?
Je l'aurais fait, si je n'avais pas lu la nouvelle de sa mort dans le journal du lendemain.
Il était peu vraisemblable que cette femme eût menti en affirmant qu'elle n'était pas allée à Baskerville. Il lui aurait fallu une voiture pour s'y rendre, et elle n'aurait pas pu rentrer à Combe Tracy avant minuit. Une telle promenade n'aurait pu demeurer ignorée. Il était donc probable qu'elle disait la vérité, ou du moins une partie de la vérité. Je partis, découragé et déconcerté.
Une fois de plus, je m'étais heurté à ce mur qui semblait boucher tous les chemins par lesquels j'essayais de parvenir à la lumière.
Et pourtant, plus je pensais à cette figure de femme, plus je sentais que tout n'avait pas été dit.
La direction de mes réflexions était bien vague, elle aussi. Je m'en rendis compte sur le chemin du retour. Pour l'instant, je ne pouvais rien découvrir de plus. Force m'était donc de me tourner vers l'autre élément qu'il me fallait dénicher autour des cabanes de pierre sur la lande.
Direction bien vague, elle aussi.
Je m'en rendis compte sur le chemin du retour.
Toutes les collines conservaient des vestiges d'anciennes demeures datant de la préhistoire. La seule indication de Barrymore avait été que l'inconnu vivait dans l'une de ces cabanes abandonnées. Or,
plusieurs centaines s'éparpillaient sur toute la lande. Mais heureusement, une première expérience pouvait me guider puisque j'avais vu l'homme lui-même au haut du pic noir. Ce sommet serait le centre de mes recherches. De là, j'explorerai chaque cabane jusqu'à ce que j'aie trouvé la bonne. Si l'homme était dedans, j'apprendrai de sa propre bouche, au besoin, sous la menace de mon revolver, qui il était et pourquoi il nous filait depuis si longtemps. Il avait pu nous échapper dans la foule de Regent Street, mais il lui serait plus difficile de s'éclipser sur la lande déserte. Dans cette enquête, la chance s'était constamment prononcée contre nous. Elle vint enfin à mon aide sous les traits de M. Frankland, qui se tenait debout devant la grille de son jardin, toujours rougeau, toujours décoré de favoris blanchis. Son jardin longeait en effet la route que Perkins avait prise. « Bonjour, docteur Watson !» s'exclama-t-il joyeusement. « Il faut absolument que vous permettiez à vos chevaux de se reposer et que vous rentriez pour prendre un verre de vin et me congratuler. » Mes sentiments à son égard étaient plutôt mitigés après ce que j'avais appris de la manière dont il avait traité sa fille, mais je ne désirais qu'une chose, renvoyer Perkins et le break au manoir. L'occasion était trop bonne pour la laisser échapper. Je descendis et priai Perkins d'avertir Sir Henry que je rentrerai à pied pour le dîner. Puis, je suivis Frankland dans sa salle à manger. « Oh, c'est pour moi un grand jour, monsieur » s'écria-t-il avec un petit rire de gorge. « L'un de ces jours qu'on marque d'un trait rouge sur son calendrier. J'ai remporté 2 victoires. J'entends montrer aux gens d'ici que la loi est la loi. » Et que quelqu'un ne craint pas de l'invoquer. J'ai établi un droit de passage à travers le centre du parc du vieux Middleton, en plein dedans, à moins de 100 mètres de sa propre porte. Ah, que pensez-vous de cela ? Nous allons apprendre à ces manias qu'ils n'ont pas le droit de piétiner les droits des bourgeois. Le diable les emporte ! Et je fermais le bois où les gens de Fenworthy avaient l'habitude d'aller pique-niquer. Ces voyous semblent croire que les droits des propriétaires n'existent pas et qu'ils peuvent se répandre n'importe où avec leurs journaux et leurs bouteilles. Mais comment, au nom du ciel, y êtes-vous parvenu ? Consultez les registres, monsieur, cela vaut la peine de les lire. Frankland contre Morland, j'ai dépensé 200 livres, mais je l'ai eu. « Et en avez-vous tiré un avantage ?»« Aucun, monsieur, aucun. Je suis fier de dire que je n'avais pas le moindre intérêt dans l'affaire. J'agis entièrement sous l'inspiration du droit public. L'affaire Frankland contre la reine attirera l'attention du public. J'ai dit à la police qu'elle regretterait son manque d'égard. Et déjà, je tiens parole. »« Comment cela ?» Le vieil homme prit un air fin. « Parce que je pourrais dire aux policiers ce qu'ils meurent de savoir. » Mais pour rien au monde, je n'aiderais cette racaille. J'étais en train de chercher une excuse pour prendre congé, mais j'eus soudain envie d'entendre la suite de ce bavardage. Je connaissais trop la nature contrariante du vieux pêcheur pour oublier qu'un signe d'intérêt trop marqué arrêterait ses confidences. Aussi, je m'efforçais à l'indifférence. Une affaire de braconnage, fis-je ? Ah, « mon garçon, une affaire beaucoup plus importante. Tenez, le forçat sur la lande. » Je sursautai. « Vous ne prétendez pas connaître sa cachette. »« Bon, je ne connais peut-être pas exactement sa cachette, mais je suis sûr que je pourrais aider la police à lui mettre le grappin dessus. » N'avez-vous jamais pensé que le meilleur moyen de l'attraper consistait à découvrir où il se procurait des vivres ? Et à le pister à partir de là ? Il paraissait se rapprocher très désagréablement de la vérité. « Sans doute, répondis-je, mais comment savez-vous qu'il est quelque part sur la lande ? Oh, je le sais parce que j'ai vu de mes propres yeux le messager qui lui apporte de la nourriture. Et vous seriez bien étonné si je vous dis que c'est un enfant. Je le vois passer chaque jour grâce à mon télescope sur le toit. » Il suit le même sentier à la même heure, et auprès de qui se rendrait-il, sinon du forçat ? La chance me souriait. mais je me gardais bien de manifester le moindre intérêt. Un enfant. Barrymore m'avait dit que notre inconnu était ravitaillé par un jeune garçon. C'était donc cette piste, et non celle du forçat, que surveillait Frankland. Si je pouvais être mis dans le secret du télescope, une chasse pénible et longue me serait épargnée. L'incrédulité et l'indifférence demeuraient les atouts maîtres. Nous avons terminé pour ce soir donc la suite de ce roman de Conan Doyle, Le chien des Baskerville, que nous retrouverons demain. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour écouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur notre site internet bretagne5.fr.